Aujourd'hui, 7 août, Emma. 17h54. C'est la nuit des étoiles, m'a dit Agathe. Je vais chercher le télescope, ai-je répondu. Nous avons préparé un sac, mangé un bout, accroché quelques avis de recherche de Robert Redford dans le quartier, sonné en vain chez le voisin du 14, puis on a pris la route. C'est une tradition. Mima nous y emmenait chaque année. Début août, pendant plusieurs nuits, les étoiles filantes pleuvent. Pour les observer dans les meilleures conditions, il est préférable de s'éloigner de la pollution lumineuse des villes. Notre coin à nous se trouve à Itchassou, le village où notre grand-mère a grandi. Petite, je rêvais de ville et d'agitation. Je voulais toujours voir du monde, bouger, sentir que je faisais quelque chose de la vie, plutôt que le contraire. Pourtant, ici, dès la première fois, entourée des collines vertes, avec les montagnes pour horizon, dans ce patelin planté au beau milieu de l'arrière-pays basque, j'ai ressenti une grande sérénité, comme s'il ne pouvait rien m'arriver. Mima était passionnée d'astronomie. Elle nous y a initiés très tôt. Sur la table du salon, recouverte de l'increvable toile cirée jaune, elle ouvrait de grands livres illustrés, dont les pages dégageaient une odeur familière de vieux papier. Alors elle pouvait nous parler pendant des heures de planètes, de constellations, de galaxies, et pendant des heures nous étions pendus à ses lèvres. Elle avait le don de rendre n'importe quel sujet fascinant. Je suis à peu près certaine que je me serais passionnée pour l'histoire des clous de girofle dans la France de l'entre-deux-guerres si elle me l'avait raconté. Régulièrement, quand la nuit était propice à l'observation, elle trimbalait son vieux télescope dans le jardin et le pointait vers le ciel. Elle effectuait quelques réglages et nous invitait à coller notre œil émerveillé contre la lunette. On découvrait alors Saturne, la Lune, Vénus, Jupiter, en poussant des « oh » et des « ah ». La voiture franchit l'entrée du village. Depuis notre départ, on écoute les sons de notre passé. Et la playlist ne sait pas où donner de la tête. On passe sans vergogne d'Ophélie Winter à No Doubt, de Ménélic à Britney Spears, d'Offspring à Lara Fabian. « Tu peux te garer au parking avant le pas de Roland », me dit Agathe en baissant le son. « Ok. » La route nous conduit devant la maison où a grandi Mima. La nostalgie l'envahissait chaque fois qu'elle l'apercevait. Elle commentait les changements, le mur récemment repeint, la nouvelle balançoire, le chêne qui avait été élagué. Dans ce jardin, insignifiant aux yeux des passants, dansaient ses souvenirs. Elle les égrenait. On les écoutait distraitement, sans mesurer l'importance qu'ils revêtaient. Pour nous, c'était des mots, des images abstraites. Pour elle, c'était une partie de sa vie qui s'était accrochée au présent. Je m'en rends compte maintenant. La personne qui évoque un souvenir le voit, l'entend, le sent même. Elle le revit pleinement. La personne qui écoute ce souvenir ne peut que tenter de le visualiser et encore, si elle est dotée d'empathie ou si le sujet l'intéresse. Sinon, elle attend patiemment la fin de l'anecdote pour en livrer une à son tour ou passer à autre chose. Elle racontait son père qui l'emmenait à la ferme, sa mère qui lui apprenait à tricoter au coin du feu, sa grand-mère qui ne parlait qu'italien, et surtout son petit frère chéri. Il figurait dans tous ses souvenirs. Jusqu'à ce qu'elle décède, il est resté son plus grand ami. Il était parti vivre près de Marseille, mais tous les dimanches soirs, pour contrer les assauts de la mélancolie, c'était leur rituel, il s'appelait. Au dernier moment, sans l'avoir prémédité, je quitte la route qui mène au pas de Roland et prends la direction du bourg. Du coin de l'œil, je vois Agathe sourire. 18h06. Ce n'est pas la première fois que je franchis le muret en pierre du cimetière d'Itchassou. Les parents de Mina reposent ici. Elle nous y a emmenés plusieurs fois. Elle nettoyait la tombe et remplaçait le seul pot de fleurs qui l'ornait. Cette Mina, fragile, vulnérable, n'apparaissait que dans ce petit cimetière isolé. Comme si l'endroit l'emportait dans un voyage dans le passé, et qu'elle se retrouvait, l'espace d'un instant, la jeune orpheline qu'elle avait jadis été. C'est aussi ici que papy a été enterré. Mima demeure désormais à ses côtés. C'est à Itchassou que leur histoire avait commencé. À Itchassou qu'ils avaient décidé de la terminer. « Prends ton temps !» me lance Agathe en s'arrêtant à l'entrée. « Tu viens pas ?»« Vous avez des choses à vous dire ?» La tombe est couverte de bouquets, fanés pour la plupart. Je les jette dans la poubelle et mets de l'ordre dans les plaques funéraires. Je ne ressens rien. Je m'emploie à faire monter les larmes. Je convoque des souvenirs heureux. Je lis le nom de ma grand-mère adorée sur la pierre. Je me surprends même à grimacer pour faire fonctionner les glandes lacrymales. On dit bien que l'appétit vient en mangeant. Peut-être le chagrin vient-il en pleurant. Mais rien ne sort. Pendant de longues minutes, je fixe la tombe de ma grand-mère, impassible. Agathe finit par me rejoindre. Elle passe son bras autour de ma taille et pose sa tête sur mon épaule. On a de la chance de savoir. Je penche la tête et la pose doucement sur la sienne. J'ignore comment j'aurais traversé tout ça sans ma sœur. Je mesure ma chance de ne pas être seule à porter mes chagrins. Je mesure ma chance de ne pas être seule à voir, entendre et sentir mes absents. Je mesure ma chance d'avoir une tête sur laquelle poser la mienne. On reste là un moment. La chaleur est écrasante. Hormis quelques bruits de moteur, le silence règne sur Itchassou. Les volets sont fermés. Ils s'ouvriront plus tard, quand la fraîcheur apparaîtra. « On y va ?» lâche Agathe. J'arrive pas à pleurer. Elle me regarde. Ses joues à elle sont inondées. « C'est pas grave. Toi, t'as toujours pleuré dedans. » On quitte le cimetière, je me retourne une dernière fois vers la tombe. Je prends la main de ma sœur et on poursuit notre route. 19h14. Le pas de Roland se situe dans une gorge creusée par la Nive. C'est une roche, percée, dont Mima nous racontait chaque année la légende. Roland, le fils de Charlemagne, était poursuivi par des troupes ennemies. Et un rocher lui barrait le passage. Alors ni une ni deux, il l'a transpercé avec son épée. On longe la rivière à pied pour l'atteindre, chargé de deux sacs à dos pleins et du télescope. On le dépasse pour rejoindre la petite plage qui se trouve à quelques mètres, et on s'assoit à l'ombre. C'est l'itinéraire que nous faisait emprunter Mima. Nous avons découvert bien plus tard que l'on pouvait s'y rendre en voiture, mais... la magie n'est pas la même, si elle n'est pas chargée du passé. « On va se tremper ?» propose Agathe. L'eau vive dégringole sur les roches. Je n'ai pas besoin d'y tenter un orteil pour savoir qu'elle est gelée. Il en est hors de question. « Moi, j'y vais !» lance-t-elle en se levant. Elle ôte ses sandales, sa robe, se retrouve en sous-vêtements. Je vérifie que personne ne peut nous voir. Héritage de ma mère. Ne pas se faire remarquer. Faire en sorte de ne pas gêner. Si la transparence se trouvait en magasin, elle nous l'aurait offerte en cadeau de naissance. Mais ce n'est pas le cas. Alors Agathe s'élance vers la rivière en insultant les galets qui lui blessent les pieds.